pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour la fête du Christ roi. Pilate entre à nouveau dans le prétoire. Il appelle Jésus et lui dit
« Toi, tu es le roi des Juifs ?»
Jésus répond
« Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?»
Pilate répond
« Est-ce que moi je suis juif ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?»
Jésus répond
« Le règne qui est le mien n'est pas de ce monde. Si mon règne était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en fait, mon règne n'est pas d'ici. »
Pilate lui dit
« Ainsi tu es roi ?»
Jésus répond
« Tu dis, toi, que je suis roi. Moi, c'est pour cela que j'ai été engendré, pour cela que je suis venu dans le monde, pour témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien voilà, nous achevons l'année liturgique. Et nous le faisons par la fête du Christ roi. Ce choix, c'est sans doute tout un enseignement. Il signifie que l'essentiel de la foi chrétienne est dans la reconnaissance de Jésus comme roi messie. Mais ce n'est peut-être pas si simple, car que signifie cette royauté ? Doit-elle encore se traduire dans la société par une sorte de chrétienté ? Il nous faut vérifier le sens que Jésus lui-même a donné à ce titre de roi et voir comment il peut s'appliquer aujourd'hui. Notre texte se situe dans un ensemble qui décrit la comparution de Jésus devant Pilate, au chapitre 18-28, au chapitre 19-16. Après la comparution de Jésus devant Caïphe, le grand prêtre juif, on conduit Jésus au prétoire. Un interrogatoire s'instaure alors entre le gouverneur romain et le rabbi Jésus. Cet interrogatoire se terminera par l'acquiescement de Pilate à la volonté des chefs juifs. Alors, il leur livre Jésus pour qu'il soit crucifié. L'interrogatoire lui-même va être rythmé par les allées et venues de Pilate. Allées et venues entre l'intérieur du prétoire et le dehors où se tient la foule. Au centre du récit se trouve le face-à-face entre Jésus et les soldats romains. Cette scène décrit la parodie de couronnement de Jésus. Et sa place au centre de la description indique sans doute son importance. Dans les récits de la Passion de Matthieu et de Marc, cette même scène va mettre un terme à la rencontre avec Pilate et elle sera immédiatement suivie de la marche de Jésus vers le lieu de la crucifixion. On peut donc dire que cette scène vient comme schématiser, cette scène du couronnement de Jésus, vient comme schématiser la passion et nous dire comment les contemporains de Jésus ont accueilli le roi Messie. Un évangile apocryphe, l'évangile de Pierre, attribue d'ailleurs cette scène non pas aux soldats, mais à la foule juive.
Hérode livra Jésus au peuple. Or eux, ayant pris le Seigneur, le poussaient en courant et disaient « Traînons le Fils de Dieu, puisque nous avons pouvoir sur lui. » Et ils l'enveloppèrent de pourpre et le firent asseoir sur le tribunal en disant, « Juge avec équité, roi d'Israël. » Et l'un d'eux, ayant apporté une couronne d'épines, la mit sur la tête du Seigneur. Et d'autres, assistants, lui crachaient au visage et d'autres le giflaient.
La question qui se pose depuis cette mise en croix est donc la suivante. Pourquoi a-t-on rejeté avec tant de hargne se prétendant au titre de roi messie? Eh bien, c'est ce que notre texte tente de décrire.
Musique.
Eh bien, la scène de notre récit se déroule à Jérusalem dans le prétoire. Ce mot désigne à l'origine la résidence du préteur, c'est-à-dire du magistrat romain qui était chargé de la justice. Celui-ci avait aussi des pouvoirs militaires, des pouvoirs qui lui permettaient donc de faire exécuter ses sentences. Le gouverneur romain de la Judée, qui était à l'époque donc Ponce Pilate, possède ses fonctions. Son lieu d'habituel d'habitation était la ville de Césarée. Mais il venait à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque, parce que cette fête voyait affluer de nombreux pèlerins dans la ville sainte. Certains historiens disent 100 000, 200 000 personnes. Et en raison de cette foule nombreuse, les fêtes pouvaient donc être utilisées par des groupes d'émeutiers, de ceux qui s'insurgeaient contre la colonisation de leur pays par Rome. Il y avait donc toujours, au temps de ces fêtes, un risque de troubles ou d'émeutes, et le gouverneur, par sa présence, voulait être prêt à intervenir. Quel est le lieu précis du prétoire, nous ne savons pas très bien. Il a pu être la citadelle qu'Hérode avait fait construire à l'ouest de la ville, ou bien la forteresse de l'Antonia, une forteresse qui se trouvait proche du temple. Les Juifs, eux, ne veulent pas pénétrer dans la demeure de ce païen qu'est Pilate, car autrement ils se souilleraient et ne pourraient pas sacrifier l'agneau de la fête de la Pâque, la fête qui va commencer au soir de cette journée dans le récit de Jean. Et c'est pourquoi Pilate devra faire l'allée et venue entre le prétoire et la place publique où se trouve la foule.
Qui est Pilate ?
Les écrits des historiens nous disent que Pilate fut gouverneur de la Judée de l'an 26 à l'an 36. Une découverte récente faite à Césarée d'une inscription qui porte son nom va à confirmer cela. Les Juifs, Philon et Flavius Joseph, ainsi que le Romain Tacite, ont laissé de Pilate une piètre description. Il était un être cruel, capable de tous les crimes, traitant les Juifs avec beaucoup de mépris. 3 ans d'ailleurs après la mort de Jésus, le légat romain de Syrie, Vitellius, va faire destituer Ponce Pilate par l'empereur, parce que Pilate avait réprimé avec brutalité un soulèvement populaire en Samarie.
Quel était le pouvoir des chefs juifs ?
Eh bien, la répartition des pouvoirs entre le procurateur romain et les chefs juifs nous est mal connue. Rappelons pourtant que le grand prêtre juif est nommé par l'empereur et qu'il peut donc être destitué par lui. C'est d'ailleurs ce qui arrivera au grand prêtre de ce temps de Jésus, Caïphe, qui sera démis de ses fonctions et déporté à Rome, en même temps d'ailleurs que Pilate. Tous deux finiront peut-être leur vie en Gaule, la France actuelle. Certains historiens pensent que le droit de mort était exclusivement réservé aux Romains. C'est ce que confirmerait en tout cas la réponse des Juifs à Pilate. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Mais il pouvait peut-être y avoir des exceptions prévues, notamment le pouvoir de mettre à mort quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui pénétrait dans l'enceinte sacrée du temple. Et lorsque, plus tard, Étienne sera lapidé par un groupe de juifs, Étienne, un des premiers diacres, eh bien peut-être que ce meurtre sera passé inaperçu des autorités romaines.
Quel est le motif de l'accusation ?
Pilate pose comme première question directement le motif pour lequel on lui a amené Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Eh bien, que pouvait signifier ce titre pour un Romain ? Dans le contexte de colonisation que vit le peuple d'Israël, revendiquer le titre de roi des Juifs, c'est vraiment un crime de lèse-majesté envers l'empereur. Oui, le seul maître du pays est Tibère, l'empereur romain. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, la révolte gronde. Des soulèvements ont éclaté périodiquement, qui ont été vite réprimés par Rome, comme les soulèvements de Teudas et de Judas de Galilée, dont les Actes des Apôtres nous parlent. Le pharisien Gamaliel s'adressera d'ailleurs au Sanhédrin, au grand conseil juif, en ces termes.
Ces derniers temps, on a vu surgir Teudas. Il prétendait être quelqu'un, il avait rallié environ 400 hommes. Lui-même a été tué. On a vu surgir ensuite Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il avait soulevé du monde à sa suite. Lui aussi a péri.
Ajoutons qu'il y a eu aussi une insurrection dirigée par le pharisien Sadoc, ce pharisien qui sera à l'origine du mouvement Zélote, un mouvement qui, organisera plus tard la révolte de Jérusalem en 66. Et une révolte qui aboutira malheureusement à une riposte sévère de Rome et à la destruction du temple en l'an 70. Mais Pilate pouvait-il craindre ce rabbi Jésus prétendant à la royauté qui, comme le dit l'exégète André Chouraki, n'a rien d'un foudre de guerre? Il semble que dans un premier temps, Pilate n'a pas peur de l'humble prêcheur que lui paraît Jésus. Il dira clairement qu'il ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est après avoir entendu l'accusation des Juifs que ce Jésus devait mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu, c'est alors que Pilate s'effraie. Fils de Dieu. Eh bien, d'une certaine façon, les Juifs le sont tous, puisqu'ils sont les membres du peuple de Dieu et que Dieu est leur Père. Et fils de Dieu, le roi Messie l'est d'une manière privilégiée. Mais pour un Romain comme Pilate, ce titre de fils de Dieu est réservé au roi ou à l'empereur de Rome. Chaque empereur a en effet été divinisé. Alors est-ce que Pilate éprouve devant Jésus la crainte du divin ou bien est-ce que c'est la crainte de l'empereur? L'empereur qui pourrait prendre au sérieux la revendication de Jésus d'être un fils de Dieu. En effet, ce titre appartient en propre à l'empereur et l'empereur ne saurait le partager, surtout pas avec un juif. Eh bien, ce sera probablement la crainte d'être dénoncé à l'empereur qui va convaincre Pilate de livrer Jésus. Les juifs se mettent en effet à crier.
Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César.
Dans un tel contexte, on peut comprendre que la revendication du titre de roi Messie pouvait être dangereuse aux yeux des autorités juives. Les chefs des prêtres pouvaient en effet craindre que Jésus soulève la foule contre Rome. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem au jour des rameaux a d'ailleurs pu alimenter cette crainte. Dans le récit de Jean, on aura aussi un écho de cela à la suite de la réanimation de Lazare.
Les grands prêtres et les pharisiens réunirent un conseil et dirent « Que faisons-nous ? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront notre saint lieu et notre nation. » L'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre, dit « Vous ne comprenez rien et vous ne réfléchissez même pas que votre avantage, c'est qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Comment Jésus répond-il à cette accusation?
Eh bien, Jésus va dire que le règne qui est le sien n'est pas de ce monde. Alors, quel sens devons-nous donner à cette parole? Est-ce que cela signifie que le règne du Christ est céleste et qu'il ne concerne pas l'histoire humaine? Eh bien, tout le message de Jésus semble réfuter cette compréhension. En effet, Jésus n'a cessé de prêcher que le règne de Dieu était tout proche et qu'il fallait y entrer dès maintenant.
Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Oui, Jésus a répété d'ailleurs que ce règne était pour les petits et les pauvres.
Heureux vous les pauvres, le règne de Dieu est à vous.
D'ailleurs, toute la tradition juive envisage que c'est dès cette vie terrestre et sur cette vie terrestre que Dieu règne. Depuis que Dieu a fait alliance avec Israël, son peuple ne devrait pas avoir d'autre roi que Dieu parce qu'il doit être le règne de Dieu sur terre. Moïse avait mis des juges à la tête du peuple. Et lorsque plus tard, le peuple a demandé un roi au juge Samuel, bien celui-ci va commencer par résister, mais il finira par céder. Alors il consacrera quelqu'un, ce sera d'abord Saül, puis ensuite David, afin qu'il soit par cette onction le représentant de Dieu, son lieutenant, son fils choisi, le roi Messie. Alors il semble donc difficile de penser que Jésus parle de son règne comme étant d'un autre monde. Il faudrait plutôt entendre le mot « monde » de la manière dont Jésus en parle lors du dernier repas dans sa prière pour ses disciples.
Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
C'est donc dans ce monde-ci que le règne de Dieu doit venir, sur terre comme au ciel. Mais ce règne de Dieu ne ressemble pas au règne des rois de ce monde. Si le règne de Jésus ressemblait à ceux des autres rois, Jésus se serait défendu pour ne pas être livré. Le pouvoir de son règne ne s'établira jamais sur la violence et la force. Les autres récits évangéliques le précisent.
Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne va pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Souvenons-nous aussi que le grand repas des pains multipliés a soulevé l'enthousiasme des foules.
À la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent « Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde ». Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne.
Jésus refuse donc d'être un roi, mais si tel que la population le souhaite. Le récit des tentations au désert nous donne une sorte de résumé dramatique de ce choix qu'a fait Jésus. Il refuse le pouvoir politique, il refuse le pouvoir magique ou la gloire miraculeuse. Oh, ce refus n'est pas provoqué par un sentiment d'humilité. Il est un choix et un choix douloureux. Jésus sait la misère du peuple. Et aussi, il multiplie les pains parce qu'il a pitié. Jésus éprouve aussi la honte du peuple. Il sait ce que veut dire l'occupation par une puissance étrangère. Il sera d'ailleurs dur à l'égard de ce roi Hérode qui est un collaborateur avec les Romains. Jésus a mesuré les conséquences de son refus, car il ne sera pas le Messie qui délivre. Il ne sera pas le Messie qui chasse l'occupant. Il ne sera pas le Messie qui gouverne dans l'abondance économique. Il ne sera pas le Messie qui foudroie l'ennemi. Jésus sait bien qu'il va décevoir. Il se laisse identifier comme Messie, mais il n'en tire aucune conclusion conforme au désir de ses contemporains.
Tu dis, toi, que je suis roi. Moi, c'est pour cela que j'ai été engendré et pour cela que je suis venu dans le monde, pour témoigner de la vérité.
Selon la vision de Jésus, le roi Messie qu'il veut être n'est pas roi à la manière mondaine. Sa tâche, c'est de témoigner de la vérité. J'ai été engendré pour témoigner de la vérité. Comment comprendre cela? Mais selon la vision biblique, le fait d'engendrer n'est pas d'abord une réalité physique, mais c'est une réalité spirituelle. Le Père engendre son enfant en lui transmettant la Torah, la sagesse de Dieu. Et c'est lorsqu'il devient adulte, à l'âge de 13 ans, que le jeune juif devient un bar mitzvah, un fils de la Torah. Il va être directement enseigné par Dieu. C'est Dieu qui devient son Père. Le roi Messie est considéré, lui, comme le Fils de Dieu, puisqu'il est porteur et défenseur de la Torah de Dieu. Il est donc lui aussi façonné par la sagesse de Dieu. Il vit selon l'Esprit de Dieu. Il agit en communion avec Dieu, qui est le seul roi. Il est donc tout spécialement engendré par Dieu. Lorsque le prophète Nathan s'adresse à David pour lui parler de ce descendant, il lui dit « Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». Le psaume, d'ailleurs, qui intronisait le roi Messie lors de sa consécration, disait également cette filiation du roi.
« Moi, Dieu, j'ai sacré mon roi sur ma sainte montagne. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. »
Eh bien, puisque Dieu est le roi et le père de son peuple, le roi Messie est le premier des fils de Dieu.
« Il m'invoquera, tu es mon père, mon Dieu, le roc de mon salut. » Aussi, moi, Dieu, je ferai de lui un premier-né, le plus haut des rois de la terre. À jamais, je lui garderai ma fidélité.
Jésus, comme Messie, a donc pour tâche principale de transmettre la Torah, la parole de Dieu, une parole qui doit se traduire en gestes dans la vie quotidienne. C'est cette parole à faire qui est appelée la vérité. Le mot hébreu « émet », qu'on traduit par « vérité », vient d'un verbe qui veut décrire ce qui est solide et qui demeure. C'est d'ailleurs aussi le sens du mot « amen ». Cela est vrai parce que cela s'appuie sur Dieu qui est le roc. La vérité, c'est Dieu lui-même à travers sa parole. Être vrai, c'est donc vivre en conformité aux préceptes reçus du Père divin. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Consacre-les dans la vérité, dit Jésus, ta parole est vérité. Eh bien voilà la mission la plus profonde, la plus réelle du roi Messie. Voilà sa tâche essentielle, transmettre la vérité qui vient du Père et la faire vivre à ses disciples dans le quotidien de l'existence. C'est pour cela, dit-il, que je suis venu dans le monde, pour témoigner de la vérité. Jésus est celui qui nous conduit vers une vie vraie, parce qu'elle sera fidèle à l'Esprit de Dieu. Et au soir du dernier repas, Jésus va dire « Je suis le chemin vers la vérité de la vie ». Chemin vers la vérité, il l'est par son enseignement, et son évangile est parsemé de paraboles qui décrivent le vrai visage de Dieu. Ce sont notamment ces paraboles du Père aux deux fils, la parabole du maître de la vigne avec les ouvriers de la 11e heure. Le père des deux fils, le maître de la vigne, sont davantage des figures d'un Dieu amour que d'un Dieu juge. Mais c'est aussi par les gestes de sa vie que Jésus est chemin vers la vérité. En effet, au soir du geste du lavement des pieds, Jean fait dire à Jésus « Qui me voit, voit le Père ». Or Jésus accomplit ce geste de tendresse de laver les pieds, alors même qu'il dit à Pierre qu'il sait qu'il va le renier. Alors Pierre pourra se souvenir que Jésus lui a par avance pardonné. C'est ainsi que Jésus témoigne de la vérité de Dieu, de son vrai visage. Dans ce geste inouï du lavement des pieds, Jésus révèle la vraie grandeur d'un Dieu qui n'est qu'amour. Et il va donner ce témoignage d'un Dieu qui n'est qu'amour jusqu'au don de sa vie sur la croix. Oui, on peut dire que c'est à la croix, enfin et surtout, que Jésus est le témoin parfait de Dieu. Car si Jésus s'est montré impuissant devant la violence de ses adversaires, impuissant surtout devant le reniement de Pierre, la trahison de Judas et l'abandon des disciples, c'est parce que Dieu, qui n'est qu'amour, se veut lui-même impuissant contre le mal. Il refuse de venger sa gloire s'il doit pour cela employer quelque violence que ce soit. Ce qui ne veut pas dire que Jésus soit indifférent au mal. Au contraire, Jésus ne cessera de dénoncer tout ce qui peut défigurer l'être humain. Jésus se fera proche des pauvres, des rejetés. Il demandera avec force aux riches de partager. Mais il ne fera rien qui puisse priver quiconque de sa liberté.
N'est-ce pas cette image de Dieu qui sera la raison fondamentale du rejet de Jésus?
L'image d'un Dieu qui accepte d'être rejeté, d'être bafoué, humilié, d'être perçu comme impuissant, c'est cela la vérité dont témoigne Jésus. Et cette image était sans doute un blasphème aux yeux des responsables juifs. Pierre lui-même n'a pas facilement admise cette image, au point de se faire traiter de Satan par Jésus.
« Retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Mais au-delà du Sanhédrin, au-delà de Pilate, au-delà des disciples et de la foule des jours de la Passion, la mort de Jésus sur la croix, c'est le fait de la multitude humaine lorsqu'elle refuse de choisir la bonté et la réconciliation, et que cette multitude humaine préfère établir le monde sur une justice qui s'édifie sur des moyens de violence. Face à la violence des règnes de ce monde, Dieu n'a pas d'autre réponse que celle donnée par Jésus, livrer sa vie. Dans son livre « Le Dieu de Jésus », Jacques Duquesne tente cette explication.
Comment Dieu a-t-il pu permettre Auschwitz? Pourquoi n'a-t-il pas volé au secours des siens? Je comprends cette question, j'en saisis toute la gravité, mais elle m'a depuis longtemps surpris. Si Dieu n'a pas empêché Auschwitz, ni aucun génocide, ni aucun des malheurs du monde, ce n'est pas parce qu'il ne le voulait pas, c'est parce qu'il ne le pouvait pas. Cette idée est difficilement admissible, je le sais. La conception d'un Dieu tout-puissant, capable de tout, est ancrée dans les esprits. Ce qui n'est pas surprenant, car c'est une conception infantile. Dieu, certes, ne se désintéresse pas de l'homme. Il souffre avec lui, il compatit. Mais il s'interdit toute atteinte à sa liberté. Il aide et il attend. L'amour est patient, dit Paul.
Alors, faut-il encore parler d'un Christ roi? Peut-on encore parler, aujourd'hui, d'un Christ roi? Oui. Oui, si la parole de Jésus, telle qu'elle est vécue par ses disciples d'aujourd'hui, est encore et toujours une parole d'espérance pour l'opprimé et une parole d'appel à la conversion pour l'oppresseur. Mais ce message de libération, l'Église des disciples ne pourra jamais l'imposer par la force. Elle ne pourra qu'en témoigner par la vie de ses communautés et par l'engagement de ses membres dans la cité des hommes. Jésus est roi, là où l'être humain se convertit, là où la table des valeurs que vit le monde est renversée. Jésus est roi lorsque il vaut mieux être pauvre qu'exploiter les autres, lorsqu'il vaut mieux être persécuté que persécuteur, lorsqu'il vaut mieux être doux que violent. Et ce renversement des valeurs, aucune structure sociale ne peut le produire par elle-même. Il ne se fait que par l'amour qui vient de Dieu, il ne se fait que par Jésus, celui que Dieu a engendré pour témoigner de cette vérité.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois ou 6 mois ou 1 an au feuillet ou aux cassettes. Nous sommes également sur Internet.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.